Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau portrait de Priorité Santé. Un entretien avec une personnalité qui compte dans l'histoire de la santé mondiale et de la santé en Afrique. 50 minutes pour retracer le parcours d'une femme, scientifique, chercheuse, spécialiste des infections qui sévissent dans son pays, le Congo, où elle a fait le choix de rester, de construire, d'accompagner pour faire aboutir ses projets.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Francine Toumi, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes parasitologue. Parasitologue, ça vous décrit par rapport à votre formation, par rapport à votre métier, ou vous voulez ajouter d'autres justement noms de métiers de spécialiste en santé?
Oh, je dirais, je suis épidémiologiste moléculaire des maladies infectieuses. Donc, je décortique virus, bactéries, parasites, beaucoup plus parasites, en regardant l'ADN ou l'ARN. Donc là, ça me décrit un peu plus.
Vous êtes dans le monde du tout petit, de l'invisible.
Exactement.
Alors, vous avez créé à Brazzaville la Fondation congolaise pour la recherche médicale que vous présidez, avec professeur Ntoumi, pour entrer dans le vif du sujet, un chiffre révélateur à la fois de votre parcours, de votre vision. La moitié des chercheurs au sein de cette institution indépendante, dont vous êtes aussi la directrice exécutive, eh bien, la moitié sont des femmes. Pourquoi c'est important pour vous ?
Parce que il est important que les femmes contribuent à la science. Il est important de bénéficier de cette diversité, de leur regard. Et il a été montré que les groupes de recherche les plus performants étaient ceux qui étaient justement ouverts aux autres.
Alors, on va parler de votre parcours. On va voir, il y a des étapes nombreuses. Professeur Francine Toumi, vous avez vécu dans combien de pays ?
Oula, plus de 5, France, Allemagne, Pays-Bas, Tanzanie, Gabon et Congo.
Et à chaque fois, vous avez appris là où les langues du pays ou pas ?
Non.
Non, pas
malheureusement.
Pas toutes. De nombreuses étapes à chaque fois. On va voir le goût de la transmission comme fil conducteur, la recherche, le goût de la découverte, de l'enquête et puis cet attachement fondamental à votre pays, le Congo. C'est en 2005, on va dire, que vous allez enfin pouvoir exercer chez vous. En 2008, vous allez créer cette fondation congolaise à Brazzaville pour la recherche médicale. On va en reparler longuement, bien sûr. Rentrer au Congo pour y être utile sur le plan scientifique, être utile aussi sur le plan médical. Et pourtant, professeur, vous n'êtes pas médecin.
Mais justement, parce que pour résoudre les problèmes de santé, c'est multi et interdisciplinaire. Donc, il y a des entomologistes, on parle santé globale, santé mondiale. Donc, il y a beaucoup d'expertise et donc la mienne en est une dans ces divers métiers pour résoudre les problèmes de santé.
Si vous n'êtes pas médecin, est-ce que vous avez renoncé ou est-ce que c'est par goût ?
Alors, c'est par goût parce que mon père voulait que je fasse médecine, mais moi, j'étais pas très attirée par la santé, oui, mais j'étais très attirée par les enquêtes. J'adore enquêter, comprendre.
Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la médecine qui vous rebutait un petit peu ?
Oui, la souffrance.
Voilà. En face à face.
Oui,
en face
oui,
à face.
Oui.
Vous ne serez pas non plus pilote de ligne parce qu'en préparant cette émission, j'ai appris que c'était votre rêve. Alors, pourquoi vous n'avez pas été pilote ?
Bah, problème d'yeux. Je ne vois pas bien du tout.
On porte des lunettes toutes les deux. Alors, premier diplôme de science, vous l'avez obtenu en 1989, diplôme de biologie. Il y aura le doctorat, donc de très longues études, hein. Université Pierre et Marie Curie, post-doctorat à l'Institut Pasteur. Vous gardez quoi de ces années ?
De la joie, de l'enthousiasme. Et mon passage à l'Institut Pasteur a été révélateur parce que là, j'ai appris la passion de ce métier et le paludisme, puisque j'ai commencé par cette maladie. Donc là, je suis rentrée dans la passion de la recherche à l'Institut Pasteur.
Quand on dit la paillasse, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire ?
Ben, c'est être au laboratoire avec des pipettes, avec des échantillons de sang. Mais pour nous, l'échantillon veut dire tellement de choses. On le voit, comme vous l'avez dit, à l'échelle tout petit et on regarde beaucoup de choses à l'intérieur.
Alors, au cours de ce parcours, professeur Francine Toumi, des figures, des rencontres, des compagnonnages qui vous ont inspiré et puis vos parents parce qu'ils vous ont quand même laissé partir, voire même encouragé.
Oui, mais ça a été une séparation difficile quand même. On sépare de son enfant à 12 ans et on ne le revoit plus. On ne le revoit que quelques jours, quelques semaines pendant les vacances. Donc, ça a été utile parce que mes parents étaient persuadés que la réussite passait par la réussite scolaire et les études. Donc, ils m'offraient ce qu'ils estimaient avoir de mieux, c'est-à-dire continuer mes études en France.
En France, mais ils imaginaient, en vous laissant partir, que vous reviendriez au pays ?
Oh oui, bien sûr, parce qu'eux-mêmes ont fait ce chemin. Ils sont venus par faire leurs études en France et ils sont rentrés au pays. Donc j'ai été élevée dans cet esprit. Je venais en France acquérir de la connaissance pour ensuite transmettre, pour ensuite travailler et rendre à mon pays. Donc,
Et rendre sur le plan de la santé, c'était aussi choisir une option utile. Et c'est pour ça qu'il y avait la parasitologie, notamment.
Exactement. Vous savez, j'ai fait ma thèse sur le wison.
Oui, j'ai lu ça. Ça, voilà. Pas très utile.
Exactement.
Sauf s'il y a des dames très riches qui veulent s'acheter...
Au Congo.
Ou habiter dans des réfrigérateurs.
Non, exactement. Et donc, j'ai fait le choix. Je me suis posé la question. Quelle est la maladie qui tue le plus actuellement sur le continent ? Le paludisme. Quel est le groupe de recherche ? Où puis-je aller me spécialiser dans cette maladie ? L'Institut Pasteur. Et donc, j'ai fait mon post-doctorat. Heureusement, j'ai été acceptée et j'ai été formée là-bas.
J'aime bien que vous dites « heureusement ». Est-ce que c'était que un petit peu de la bonne fortune, du hasard ?
Oh, je pense que Dr Odile Mercereau Pujalon, qui a été donc mon encadreur à l'Institut Pasteur, a dû, je pense, déceler ma passion, mon désir ardent et surtout ma motivation, je pense.
Y a de l'inspiration, il y a de la motivation. Et en préparant cette émission, vous nous avez confié que parmi vos sources d'inspiration, précisément, il y a la lecture de ce qui a été un véritable best-seller, la trilogie des fourmis. 35 millions d'exemplaires traduits en pas moins de 30 langues. Et voilà ce qu'en disait son auteur Bernard Werber, 20 ans après la publication du premier tome. Il était sorti en 1991.
Dans la mesure du possible, je n'écrase pas les fourmis. C'est-à-dire si je marche, j'essaie de regarder où je marche et je ne les tue pas. Si j'en ai dans ma cuisine, j'essaie de faire une dérivation où elles vont se nourrir ailleurs. Donc par exemple, je revois l'endroit où elles rentrent par la fenêtre et je mets de la nourriture à l'extérieur pour qu'elles ne rentrent pas dans la cuisine. J'ai tout le temps trouvé une manière de fonctionner avec elles avec respect. Les fourmis, c'est l'insecte qui a l'air le moins intéressant possible, donc ça devient un vrai challenge. C'est l'insecte le moins intéressant parce que contrairement aux abeilles, il ne fait pas de miel, donc il n'y a pas un intérêt pour l'homme. Et contrairement aux cafards ou aux mouches, ou aux moustiques, il ne transporte pas de maladies. Donc c'est un animal qui ne nous fait ni du bien ni du mal, c'est un animal neutre. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, cet animal qui a l'air complètement inintéressant, en dehors de la problématique comment s'en débarrasser dans les cuisines, il serait intéressant de le montrer que c'est une civilisation parallèle, puisqu'elle construit des cités, elle construit des routes. Et après, j'ai découvert qu'ils avaient une agriculture, un art de la guerre et un début de technologie qui était en train d'apparaître. J'ai pas une obsession pour les fourmis, mais par contre, je suis vraiment reconnaissant de m'avoir permis d'entrer en littérature et de m'avoir permis de faire le métier qui me semble le plus sympathique au monde, savoir raconter des histoires.
Bernard Werber, archives de 2014, professeur Ntoumi, cette trilogie des fourmis, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce livre ?
Déjà, comme je disais, roman policier. C'est un roman policier original. Et puis, comme l'a dit l'auteur, c'est-à-dire qu'on regarde les fourmis différemment, c'est un insecte tout petit, mais qui fait de grandes choses. Et donc, j'ai été vraiment passionnée par l'imagination, l'humour aussi. Il a beaucoup d'humour. Quand on est dans les sciences, en tous les cas, moi, j'aime me détendre. Et donc, ce livre m'a apporté cela. Et quelques années plus tard, vous savez, quel est l'emblème de la fondation que j'ai créée ? Comment je vois ce que je fais ? C'est la fourmi.
Et ça vous ramène justement au tout premier article que vous avez publié dans la revue Science. Le titre, ça ressemble vraiment à un conte africain. La fourmi qui a appris à devenir un éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais exactement, comme l'a dit Bernard Werber, la fourmi est insignifiante, toute petite, mais elle travaille et c'est exactement ce que je me représente, la fondation et moi-même comme cela. J'étais déterminée à transformer mon environnement, mais pas comprise par mon environnement. Et puis, voilà, au bout de quelques années, on découvre une construction et on se rend compte que c'est cette personne presque insignifiante qui a été capable de réaliser cela. Et l'éléphant, ce sont mes partenaires, l'Université Tübingen, l'Institut Pasteur, les grosses institutions qui, elles, ne vous regardent pas avec mépris, mais au contraire, qui vous aident à monter, à grandir. Et c'est comme ça que je vois le partenariat Nord-Sud, dans le fond. Sans écraser, un partenariat égalitaire, même si l'autre est plus fort, il va soulever le petit pour que le petit puisse le regarder droit dans les yeux.
C'est important, surtout quand on est petit. L'échange, je mesure 1m50 et des quelques. Alors, l'échange, justement, on passe de la fourmi au moustique, parce que c'est quand même là le cœur de votre métier aussi. Ce palu qui vous occupe depuis des dizaines d'années, ça vous a valu des distinctions scientifiques à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale. 2012, le prix de l'Union africaine. 2016, le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France, avec la création à Brazza de votre centre de recherche des maladies infectieuses. Donc il y a toutes ces étapes, hein, l'Allemagne, le Gabon, la Tanzanie, et puis la volonté de revenir, on le disait tout à l'heure, au Congo. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, professeur Ntoumi. Et de revenir, pourquoi ? Parce que vous avez été écarté de votre pays d'origine pendant une période douloureuse, la guerre civile. On disait à l'époque, déjà sur l'antenne de RFI, la guerre du poule. Et voilà ce qu'en disait précisément, nous sommes en 1997, on remonte dans le temps, la télé française, reportage de Dorothée Olyrique, qui est à cette époque diffusée dans le journal de France 2.
Pour Brigitte et Hortense, c'est le retour à Brazzaville et le choc. La ville est détruite et l'odeur de cadavres suffocante. Les deux sœurs qui avaient quitté la capitale congolaise au début des combats découvrent stupéfaites l'ampleur des dégâts. Elles ont décidé de rentrer et pourtant Brazzaville est toujours désertée par la population.
Vous avez perdu beaucoup de famille et d'amis pendant la guerre ?
Famille, mon enfant, 7 ans, la mort, une fille.
À Brazzaville, ce n'est plus la guerre, mais pas encore tout à fait la paix. Les miliciens Cobra, toujours armés, sont ivres de victoire et de jeux de guerre. Brazzaville leur appartient.
Je vais vous faire montrer les corps des Obévillois. Ils sont là, armés. Ça, c'est un ninja. Ça, c'est un ninja. Et ça, c'est celui-là, là-bas, c'est un Zoulou. Le camp de celui-là, il est de chez le Souba.
Les gens commencent à revenir ?
Ils reviennent au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Il y a la sécurité, sauf que la nuit, bon, il y a des tirs isolés.
Hein, des Donc tirs les isolés. Gens ont peur encore un peu ?
Oh, pas tellement. Malgré les tirs, on voit les enfants de 4 ans, 5 ans qui viennent déjà dans le quartier. Il n'y a pas de problème déjà.
Des enfants, nous n'en avons pas vu. Les quelques familles qui sont rentrées sont terrées chez elles. Brazzaville est livrée au pillard. Après 5 mois de guerre... Il leur faudra apprendre à déposer les armes, à retrouver le silence et la paix.
Archives, reportage de 1997. Donc, quand on a demandé à vous, professeur Francine Toumi, de choisir une archive d'actualité, c'est ce moment-là que vous avez sélectionné, la guerre du poule, pourquoi ?
Parce que je finissais mon post-doctorat à Pasteur, à l'Institut Pasteur, et je rêvais de rentrer au Congo. Et là, cette situation... m'était fermé la porte à mon retour. Et donc, là, je me suis demandé, mais que faire ? Que vais-je devenir ? Et j'ai eu la chance d'avoir un poste au Gabon à ce moment-là. Mais là, je pense que ça a été un tournant dans ma vie.
Est-ce que le fait d'être empêché de l'extérieur, ça vous a en fait encore plus motivé pour revenir ? Ça devenait quelque chose de vital où il y avait à l'inverse plutôt du chagrin et de la déception.
Il y avait beaucoup, non. À ce moment-là, il y avait beaucoup de chagrin et de désespoir à ce moment-là. Donc, en me disant, bon, j'avais focalisé toute mon énergie sur ce retour qui ne m'était plus possible. Alors, mais que faire ? J'en étais là. Et encore une fois, heureusement qu'à l'Institut Pasteur, justement, le leadership savait, connaissait ma volonté de retour et ils m'ont aidé à trouver justement ce poste au Gabon qui était près du Congo et qui m'a permis quand même de commencer ma carrière telle que je l'entendais en Afrique.
Donc, retour au pays qui a été un petit peu retardé, mais qui va arriver. Des manières de travailler différentes que vous avez pu connaître à ce moment-là. Et puis, c'est important au cours d'une carrière et d'un parcours comme le vôtre d'avoir des liens dans la durée, surtout quand on voyage beaucoup. On va l'entendre des souvenirs, des personnalités qui comptent dans votre vie, non seulement de chercheurs, mais aussi la vie tout simplement, avec celle qui se présente comme votre sœur de cœur. Nicole Buendé, bonjour.
Bonjour.
comment définir le lien qui vous unit à notre invitée Francine Toumi?
C'est un lien d'amitié, une amitié de très très longue date.
Quand vous parlez d'elle ou quand vous vous adressez à elle, est-ce que vous lui donnez un surnom?
Oui, à l'époque c'était Fantomette, plus aujourd'hui, c'est juste pour la chahuter.
Alors, on est de l'ancienne génération, c'est vrai, Nicole Buendé, peut-être que les jeunes connaissent moins Fantomette. C'est une héroïne de roman pour les jeunes, pour les ados. C'est une jeune fille qui, dans la vie, est une étudiante de tous les jours et qui se transforme en enquêtrice, en détective. Pourquoi Fantomette? Parce qu'elle aime découvrir des choses ou parce que c'est une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux?
Je pense qu'il y a tout ça, mais beaucoup aussi, parce qu'elle n'avait pas froid aux yeux.
Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre? Ça remonte à quand, justement? Aux années du collège?
Oui, année 71.
1971, c'était où précisément?
Par nos parents déjà, qui travaillaient dans une même boîte. Et nous avons été dans le même collège, en classe de 6e.
Qu'est-ce qui vous a plu chez elle?
Son calme, je pense. Jamais un mot plus fort, c'est tout mon contraire. Hein.
on dit souvent que les contraires s'ajustent bien, non?
C'est vrai.
Et c'était une élève comment? Vous dites elle était calme. Est-ce que c'était d'emblée, on a vu que c'était une élève un petit peu à part, une élève brillante?
Non, brillante, excellente dans toutes les disciplines. Hein. Elle avait des bonnes notes partout.
Alors, vous vous êtes connue donc à Brazza, et puis vous vous êtes retrouvée très très loin du Congo. Expliquez-nous comment ça s'est passé.
Au cours du passage en classe de 5e, son papa a estimé qu'à Brazzaville, sa fille n'allait pas s'épanouir. Pas beaucoup de bibliothèques, il faut toujours aller au CSF et tout. Donc, lors du passage en 5e, son papa l'a envoyé en France jusqu'à la terminale.
Et vous vous êtes retrouvée quand alors?
Quand moi j'ai eu mon bac, c'est en 79, mais on se correspondait.
Donc vous écriviez des lettres. Est-ce qu'elle avait changé de la petite fille de 11 ans ou 12 ans qu'elle était quand vous l'avez connue au départ à cette jeune femme?
Non, elle est restée vraiment la même. Hein. C'est quelqu'un de très simple. Hein. Elle est restée égale à elle, la même. Moi, je ne vois aucune différence.
Vous disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un de calme. Est-ce que c'est pour autant quelqu'un de réservé? Est-ce que c'est pour autant quelqu'un qui garde un petit peu ses sentiments secrets pour elle-même ou c'est quelqu'un d'assez spontané?
Non, avec moi, elle est spontanée. Il n'y a aucun sujet tabou. On parle de tout, hein, on parle de tout. Mais elle ne s'ouvre pas avec tout le monde, hein, ça c'est sûr.
Les années ont passé, hein, ça fait longtemps que vous avez arrêté les études, sans vous manquer de respect. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans quelles circonstances?
Non, avec elle, on se retrouve toujours. Quand elle passe quelque temps, elle ne m'a pas eu, elle m'appelle. Moi aussi, quand je constate que ça fait un moment, je peux lui envoyer un message WhatsApp, parce que je sais qu'elle voyage beaucoup. Mais quand elle rentre, elle m'appelle. Hein.
Dans ce que vous avez vu de sa vie, pour vous, ça a été qui le personnage marquant qui un petit peu a tracé son chemin, justement, vers toute cette réussite?
C'est son père. Comme elle est fille unique, il y a 5 garçons et elle, qui est l'aînée, la fille unique. Alors, très tôt, son papa a décelé ses capacités intellectuelles de sa fille. Hein.
J'aime beaucoup quand vous dites qu'elle était fille unique. Parce qu'il y a 5 frères, elle est fille unique, ça veut dire la seule fille. Et vous avez eu l'impression que le fait justement qu'elle soit une fille, ça n'a posé aucun problème à son père pour la mettre en avant, pour valoriser toutes ses compétences intellectuelles qu'elle avait et qu'elle était extrêmement prometteuse.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Quand je vous entends, il y a plusieurs adjectifs qui me viennent en tête. Ce sera le mot de la fin. Nicole Buendé, une femme calme. Une femme prometteuse, une femme loyale. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs, vous, pour qualifier votre amie Fantomette, Francine Toumi?
La simplicité, mais beaucoup de rigueur hein, dans le travail.
Vous la verriez dans des responsabilités politiques, votre amie?
Oui, pourquoi pas? Elle en a les capacités. Mais la recherche qui sera peut-être un peu délaissée, je pense.
Un grand, grand merci à vous pour cet entretien, Nicole Buendé. Très, très bonne journée à Brazzaville. Alors, promis, je ne vais pas vous appeler Fantomette jusqu'à la fin de l'émission. Professeur Francine Toumi, une fille parmi les garçons, pour vous, l'amitié, c'est important?
Oui, oui.
On trouve malgré tout le temps de conserver ces amitiés?
J'en ai très peu, mais fidèle sur le long terme. Mais j'en ai très peu.
d'autant plus précieuse.
Oui.
On va poursuivre notre échange, toujours pour évoquer votre parcours de chercheuse africaine en santé, professeure Francine Toumi. Et vous avez choisi de partager avec les auditeurs, les auditrices de Priorité Santé, ce titre. Là aussi, on remonte un petit peu dans le temps. 1990, Ismaëlo, Tajabone, pourquoi ce choix ?
Parce que je trouve que c'est un chant mélancolique et pourtant qui témoigne de la joie. C'est un chant, c'est une musique folklorique. Hein. Ça me prend dans les tripes, cette chanson.
J'allais le dire, ça prend au ventre. Eh ben, on va l'écouter tout de suite. On va se retrouver juste après pour parler de la recherche et des femmes savantes. Priorité Santé sur RFI, portrait, l'évocation d'un parcours d'une personnalité qui compte pour la santé. Femme investie dans la recherche dans son pays, le Congo, à Brazzaville, où elle dirige l'équipe de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Nous sommes toujours avec la professeure Francine Toumi. Et il y a quelque chose, professeur, dont vous êtes fière, au-delà des prix multiples que vous avez reçus, des distinctions qu'on a évoquées en première partie d'émission, c'est la page d'un livre. Page 67 d'un petit manuel scolaire de CM2, vous y êtes décrite, hein, je suis allée regarder ce qu'il y avait marqué. Je cite, une chercheuse de pointe, une scientifique récompensée, une femme engagée, ça vous convient ces définitions ?
Oui, ça me fait vraiment très plaisir. La semaine dernière, j'ai assisté à un spectacle et il y avait des enfants. Et à la fin du spectacle, qui sont venus me voir et... pour vérifier que j'étais bien la personne qui était dans le livre scolaire. Alors, ça m'a fait chaud au cœur. Et certains des enfants pensaient que j'étais morte, en fait.
Vous êtes bien vivante. Donc, c'est vrai que ça, c'est une célébrité, pas comme les autres, hein, de rentrer finalement dans le vocabulaire des enfants.
Ben, c'est émouvant, parce que justement, d'habitude, je ne suis pas une star de la musique. Les stars de la musique, bon, elles sont connues tout de suite. Bon, les scientifiques, généralement, c'est... après leur départ de cette terre. Donc, c'est très... voilà, ça me touche et c'est une reconnaissance qui me touche profondément.
Est-ce qu'il vous arrive d'aller à la rencontre des enfants, des élèves ?
Oui. Oh oui.
Et,
oh oui.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans le moment d'échange ?
Oh, je réponds à toutes leurs questions. Nicole parlait de simplicité. Il le constate tout de suite que je suis comme eux. J'ai rien d'extraordinaire, mais leur dire justement que on peut avoir l'air de ne pas être extraordinaire et faire des choses extraordinaires et être très ambitieux. C'est ce que j'essaie de leur dire et surtout de leur dire à eux toutes et eux tous que le ciel doit être votre limite. Où que vous soyez, rêvez vraiment le plus loin possible.
Vous avez rêvé, vous avez créé cette maison, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale de Brazzaville. Est-ce que vous y passez plus de temps que chez vous ?
Oui.
Oui. On peut dire que c'est votre seconde maison ?
Absolument.
Oui. Alors, c'est vraiment un lieu dédié à la recherche sur les infections, le paludisme, on en a parlé. Pas seulement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une infection plus qu'une autre qui mobilise vos équipes de chercheurs ?
Actuellement, c'est évidemment le paludisme. Avec l'introduction du vaccin, il faut apporter des données au ministère de la Santé pour comprendre après l'impact de ce vaccin sur nos populations.
Mais ça veut dire que chez vous, la campagne de vaccination sur les enfants, enfants de moins de 5 ans, ça a commencé ?
Non.
Ça n'a pas commencé. Va commencer.
Justement, pour introduire, si on veut bien faire les choses, il faut connaître. Voilà, exactement. Et la science, les scientifiques locaux doivent apporter leur contribution. Et puis, il y a les maladies, les fameuse maladie émergente et réémergente. La COVID a donné un coup de semonce pour rappeler que justement, il fallait que les scientifiques locaux connaissent leur environnement et soient prêts à pouvoir détecter tout pathogène inquiétant.
Est-ce qu'il y a des sujets d'alerte précisément chez vous en termes de virus ?
La variole du singe actuellement. Qui flambe en RDC et on a de nombreux cas qui augmentent chez nous. Ebola, qui est une maladie récurrente. Donc ces maladies virales doivent être surveillées avec des outils de pointe qui existent actuellement. Et c'est ce que nous faisons en collaboration avec nos collègues de la RDC.
Justement, vous avez cité très rapidement cette pandémie, professeur Ntoumi. Votre centre de recherche sur les maladies infectieuses a été en première ligne. De quelle manière pendant la pandémie ?
Déjà dans le diagnostic, parce qu'il fallait utiliser des outils moléculaires et donc en dehors du laboratoire national de santé publique, il n'y avait que notre centre qui était capable d'appuyer ce laboratoire. Donc là, nous avons vraiment contribué main dans la main.
Exercice de travaux pratiques avec vous. On parle vraiment à la professeure. Comment est-ce qu'on explique simplement aux auditeurs et aux auditrices, attention, c'est pas facile, quelle est l'utilité de la création d'une plateforme de séquençage, c'est quoi ?
Alors, ça permet de décortiquer, de savoir exactement quel est ce pathogène. Est-ce que c'est un virus, une bactérie ? Qu'est-ce que c'est ? Le séquençage, c'est vraiment la photographie. On sait exactement ce que c'est.
On revient à l'enquêtrice.
Voilà. Exactement.
Ça veut dire que vous pouvez suivre la filature, on est toujours dans l'enquête, vous pouvez communiquer, vous pouvez avertir sur des sujets complexes et la vulgarisation scientifique en même temps.
Absolument.
Et la transmission des données.
Absolument. Avec ces plateformes de séquençage, on peut savoir ce que c'est, d'où il vient, la phylogénie, l'origine, parce qu'on va comparer avec ce que d'autres ont trouvé ailleurs et à quel moment dans le temps. Donc, c'est vraiment la traçabilité. C'est un outil extrêmement important. Et donc, nous, on l'a mis en place au moment de la COVID, mais maintenant, évidemment, nous l'utilisons pour toutes les autres pathologies.
C'est un investissement sur le long terme.
Absolument.
Alors, la pandémie, ça a eu comme effet collatéral de donner une impulsion inédite à la désinformation en santé. Discours anti-vax, vous, professeur Ntoumi, chercheuse qui travaillait depuis tellement d'années sur les outils pour lutter contre les infections, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui ce discours, au moins critique, sinon sceptique, voire anti-scientifique ?
Les anti-vax, vous savez, partout il y a des voix contraires, mais au moment de la COVID, évidemment, ces voix contraires ont eu plus le micro. Donc il faut répondre par des arguments. C'est ce que nous essayons de faire, ne pas rentrer dans des polémiques stériles inutiles, parce que c'est contre-productif, mais vraiment à chaque fois, essayer, écouter, et puis calmement faire de la pédagogie quand c'est possible et quand en face, la personne veut bien aussi écouter, parce que quelquefois, les idées reçues sont là et c'est même pas la peine d'essayer d'expliquer.
Garder une démarche scientifique.
Et de la pédagogie, de l'écoute, écouter ce que l'autre dit et puis essayer de déconstruire tranquillement, sans agressivité.
ne pas répondre par les mêmes armes, en quelque sorte. Alors, vous avez monté ces structures, professeur Francine Toumi, elles permettent d'accéder à des outils de recherche. Donc, on a bien compris que vous n'avez pas du tout abandonné votre projet de devenir détective, avec un épisode en particulier, à nouveau notre boîte à archives, un autre moment assez douloureux dans l'histoire du Congo, mars 2012, l'explosion du dépôt d'armes de Mpila Brazzaville, déflagration sur le site militaire, ça, avec un bilan très lourd, 300 morts, 2500 blessés. Et en 2014, le correspondant de RFI à Brazzaville, Loïcia Martial, retourne aux abords du lieu du sinistre.
Au petit carrefour, communément appelé Libomi, près de l'épicentre des explosions, Benito se souvient de la douloureuse scène du 4 mars 2012, comme si c'était hier.
Ce que nous avons vécu, ne souhaitons pas que ça se reprenne. C'était vraiment de l'apocalypse. Voir la ville s'assombrir à 8h du matin, vraiment, c'est pas des choses à revivre à la longue.
Le deuxième jour, je suis revenu chez moi, j'ai dormi à Belle Étoile jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de ramasser quelques tôles qui étaient là pour essayer d'arranger un peu une chambre, et c'est là où je vis.
Quelques 5000 parcelles ont été touchées par les explosions. Près de 300 personnes ont péri dans le drame de Mpila, qui a donné lieu à un procès. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Archive RFI, précisément, vos chercheurs vont jouer un rôle après le drame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière, professeur Francine Toumi ?
Oui, nous avons apporté notre contribution, qui était justement la biologie moléculaire, et donc donner des informations sur la base de l'analyse de l'ADN. Et donc, on a fait l'empreinte génétique, donc sur les corps qui ne pouvaient pas être identifiés par les méthodes conventionnelles, nous avons fait les empreintes génétiques.
Ça veut dire qu'on est aussi dans le concret, dans l'utilité absolue. Voilà. Aujourd'hui, à quoi ressemble une de vos journées ? Tout à l'heure, vous avez dit « je n'ai pas beaucoup de temps ». Ça veut dire que c'est du lever au coucher, ça ressemble à quoi ? J'imagine, est-ce que vous mettez encore la blouse blanche ?
Moins, beaucoup moins. Je suis un manager plutôt. Mais ma journée commence toujours par le sport. Là, mes 30 minutes de sport... Et après, c'est le marathon entre les appels téléphoniques, les réunions de gestion, les réunions scientifiques, les réunions avec les autorités, les réunions internationales. Donc, je suis dans beaucoup de comités. Donc, voilà, après ma journée rythmée de réunions, toutes différentes les unes des autres. Donc, il faut passer d'un sujet la minute d'après à un autre sujet. C'est assez lourd.
Vous avez un grand potentiel de concentration ?
Oui.
Oui ?
Oui.
C'est quelque chose qui se travaille ou c'est quelque chose que vous avez depuis toujours ?
Que j'avais, je dirais, depuis toujours, mais qu'avec l'âge, je sens bien que... Voilà.
Il faut continuer à faire des exercices, c'est ça. Alors, vous appuyez bien sûr sur une équipe. Vous disiez tout à l'heure, je suis manager, mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul, ce travail. Avec la moitié de votre équipe, qui est donc féminine, investie dans cette recherche, et à vos côtés, un autre compagnon de route, on lui donne la parole à présent. Professeur Alain-Maxime Mwanga, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neurologue psychiatre et vous êtes le chef du service de psychiatrie au CHU de Brazzaville au Congo. Parmi vos responsabilités, vous êtes président de la Société congolaise de santé mentale. Et j'aurais aimé savoir, professeur, à quelle occasion est-ce que vous avez, pour la toute première fois, croisé le chemin de Francine Toumi ?
J'ai rencontré madame Francine Toumi à la faculté des sciences de la santé, c'est-à-dire notre faculté de médecine. Son laboratoire de biologie moléculaire était implanté dans les locaux de notre faculté. C'est donc tout naturellement que je l'ai rencontré.
Fruit du hasard ou fruit de vos parcours scientifiques respectifs ?
Son parcours est particulier. Elle a commencé son parcours en France. Elle s'est retrouvée par la suite au Gabon. Ensuite en Allemagne, ensuite je pense en Tanzanie, elle est repartie en Allemagne et enfin elle a choisi de revenir au Congo C'est un parcours inhabituel et cela a attiré mon attention.
Alors justement, vous, le psychiatre, vous l'avez rejointe au sein de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. On imagine que c'est beaucoup de biologie, de beaucoup de sciences de la vie. Qu'est-ce qu'un psy vient faire dans cette histoire ?
C'est que le domaine des maladies infectieuses est traversé également par les problèmes de comportement. Et on s'est rendu compte, notamment lorsque nous avons affronté l'épidémie Ebola, qu'il fallait changer la manière des gens, les rites associés à la mort pour pouvoir bloquer l'évolution de l'épidémie. Sinon, les populations continuaient à transmettre le virus. C'est bien de trouver des choses au laboratoire, mais il est également très important que la communauté puisse en bénéficier. Et pour que la communauté puisse en bénéficier, il faut qu'elle puisse comprendre. Faire de telle sorte qu'un vaccin qui a été identifié, mis au point, que ce vaccin-là soit validé par les populations.
On évoque au cours de cette émission le parcours, hein, toutes ces étapes dans la vie de Francine Toumi, un parcours international, une femme qui a un certain charisme et pourtant qui réussit à rester accessible. C'est vrai qu'on la voit aller auprès des étudiants, des étudiantes, aller dans des écoles, être un petit peu sur tous les fronts. Comment on fait comme ça pour faire un petit peu la une des journaux et en même temps rester soi-même ?
Bon, je pense que chez elle, c'est une tendance naturelle. Et je pense que cela traduit également sa capacité à susciter la motivation chez les gens qui l'accompagnent. Les étudiants d'abord, il faut reconnaître que depuis qu'elle est à Brazzaville, elle a permis à un certain nombre d'étudiants, elle les a accompagnés dans leur processus d'obtention du master, elle les a également accompagnés dans leur processus d'obtention du doctorat. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Accompagner, diriger, pour ce faire, il faut parfois de la fermeté. Est-ce que c'est le cas aussi avec Francine Toumi ?
Effectivement, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui est capable d'affronter des situations hostiles et c'est quelqu'un qui est également capable de sanctionner parce qu'il n'est pas possible de construire ce qu'elle a construit en l'espace de 10 ans si véritablement on ne fait pas preuve de rigueur.
Alors, beaucoup de qualificatifs très positifs. Vous allez dire, elle cherche un petit peu la petite bête, Caroline Paré, mais je l'assume, elle a quand même un petit défaut, non, Francine Toumi ?
Comme tout le monde, elle a les défauts de ses qualités parce que, étant entendu qu'elle se demande à elle-même un haut niveau de sacrifice, elle demande également aux autres d'avoir le même niveau d'engagement. Et cela peut déboucher sur des frictions, hein. C'est tout à fait naturel. De plus, comme c'est une femme, il va sans dire que dans des sociétés comme les nôtres, où il n'est pas habituel que cela soit une femme qui exerce le commandement, cela peut poser des problèmes.
Vous, à titre personnel, ça ne vous pose pas de problème, professeur Mwanga, d'être dirigé par Francine Toumi ?
Non, moi ça ne me pose pas de problème. Hein. Reconnaître que quelqu'un peut vous apporter quelque chose, ça facilite le management. Et également beaucoup de satisfaction.
Et beaucoup de détermination. Un grand merci à vous, hein, professeur Mwanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Professeur Francine Toumi, des liens qui se cultivent tout au long de la vie. Est-ce que le fait d'être une femme en science, et une femme de pouvoir aussi, on l'a entendu, hein, ça vous a placé dans des situations délicates ?
Oui. Ce n'est pas, comme l'a dit le professeur Mwanga, dans notre société, la femme ne doit pas se mettre en avant. Donc, elle doit laisser le beau rôle à l'homme ou demander l'autorisation. Et moi, je ne demande pas l'autorisation, je fais. Et donc, j'ai eu quelques difficultés, oui.
Est-ce qu'il y a, par exemple, des préjugés qui vous viennent en tête, qu'on vous a dit dans votre parcours de femme, dans votre parcours aussi, parce qu'il y a la vie d'à côté, ce n'est pas vraiment notre créneau ici, la vie amoureuse ou la vie de famille. Mais quand même, c'est des choses qui comptent quand on est une femme.
Non, dans ma vie personnelle, je n'ai pas eu de problème. Mais dans la vie professionnelle, au début, en tout cas au Congo, j'étais pas audible, je n'avais pas de voix. Dans les réunions, j'étais transparente.
Qu'est-ce qui a changé? Les distinctions internationales, qu'est-ce qui a changé?
Oui, oui.
C'est ça qui vous a apporté cette protection?
Les distinctions et le regard des médias. Et surtout... pas que les distinctions, mais aussi les résultats. Les résultats étaient visibles parce qu'on est aussi dans une société où l'apparence est très importante. Beaucoup de gens font disent beaucoup de choses, des très belles phrases, mais derrière, il n'y a rien.
Oui, les prix scientifiques, en général, il y a quelque chose derrière. Voilà. Quand même.
Et là, par contre, j'étais une femme. Le centre de recherche existe, les étudiants sont formés, ils sont là, leurs résultats en témoignent. Nos publications, surtout les publications, étaient très importantes parce que nous avons commencé à communiquer quand nous avons eu des résultats validés par des publications scientifiques. À partir de là, quand on est reconnu par nos pairs, nous pouvions communiquer et surtout faire savoir que pour moi, le plus important, c'était de faire comprendre à tous qu'il était possible et qu'il est possible de faire une recherche de qualité au Congo. C'était ça, vraiment, mon mot d'ordre. Montrer cela et le dire.
Souveraineté scientifique.
Pardon ?
Souveraineté scientifique.
Oui, mais c'est important de le faire savoir aussi à la communauté locale, pas qu'à la communauté internationale, à la communauté locale, parce que ce que l'on veut, c'est qu'après, la communauté locale nous apporte des subventions pour pouvoir répondre aux besoins de santé et aux besoins de science du pays.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir besoin de faire davantage vos preuves que si vous étiez né Franck Ntoumi ? Vous êtes Francine, vous n'êtes pas Franck. Est-ce qu'il a fallu en mettre plus sur la table ?
Mais absolument. C'est-à-dire qu'il faut être sûr des résultats que l'on présente. Il faut, sachant que ces résultats vont être décortiqués. Donc il faut... je crois, comme pour toutes les femmes, on est très exigeante vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on sait que le regard va être beaucoup plus critique.
Alors forcément, il faut travailler pour ça. On parle souvent de ce plafond de verre pour les femmes scientifiques. Comment encourager davantage encore les chercheuses africaines, a fortiori, professeur Ntoumi ?
Alors, avec le mentorat, de plus en plus, nous en prenons conscience, la visibilité, les rôles modèles, parce que jusqu'ici, nos rôles modèles, c'est Marie Curie, bon, c'est un petit peu éloignés.
Ça donc, fait loin et longtemps.
Voilà. Il nous faut des modèles présents, même Françoise Barécine aussi, qui est là, mais ça nous paraît loin pour la petite Congolaise de Bakongo. Donc, il nous faut des modèles qui nous ressemblent, des modèles de succès en sciences qui nous ressemblent, du mentorat. Et puis, ensuite, pour les femmes scientifiques qui avancent et qui ont des résultats, avoir une voix. C'est une responsabilité, utiliser cette voix pour faire comprendre, pour faire bouger les lignes. Donc, je pense que ça, c'est très important, qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour les filles, pour nos étudiantes, parce qu'il y en a beaucoup qui décrochent tout simplement parce qu'elles n'ont pas de soutien, de subvention pour aller à l'étape d'après. Donc, c'est notre responsabilité, voilà, d'attirer l'attention et de pousser pour que des mesures d'accompagnement soient mises en place.
Alors, est-ce que ça va se limiter au seul, même si c'est déjà immense, cercle de la science? Tout à l'heure, en première partie d'émission, quand j'ai demandé à votre amie, votre sœur de cœur, Nicole Bouendé, si elle vous imaginait entrer en politique, elle a dit pourquoi pas. Alors, je vous pose la question à vous, la première intéressée. Qu'est-ce que vous me répondez, professeur Ntoumi?
Ma réponse, ça serait aujourd'hui, je répondrais pourquoi pas. Parce que je pense qu'on rentre en politique, c'est un véritable engagement pour les autres et qu'on rentre pour servir les autres, pas pour se servir comme malheureusement beaucoup le font. Donc maintenant que j'ai assis, ma carrière est assise, j'ai eu toutes les satisfactions, de nombreuses satisfactions, je pense que maintenant je peux mettre tout mon engagement pour servir les autres. Et donc, dans ce sens, pour moi, c'est ça la politique. Donc, pourquoi pas ?
Transformer l'essai, faire de la politique, ça signifie quoi pour vous ? Se projeter à quelle responsabilité ? Je ne vais pas vous demander de faire un acte de candidature, c'est ça.
Non. Je vois les limites des actions que je conduis actuellement. Parce que on apporte des résultats, on apporte des choses pour que les décideurs prennent des décisions, justement. Mais il y a un moment, on a envie d'être à l'endroit où les décisions se prennent. Donc, j'aimerais bien essayer cette expérience parce que je vois bien qu'il y a des blocages. Et quand il y a des blocages, dans ma vie, j'essaie d'aller voir ce qui se passe et d'apporter ma contribution. Donc, voilà. Donc, je pense que maintenant, je me sens plus prête. Il y a quelques années, je n'étais pas prête.
À l'échelle congolaise ou à l'échelle panafricaine ? Moi aussi, j'enquête. Hein.
Je dirais à l'échelle congolaise, parce qu'il y a tellement à faire, tellement à faire.
Un immense merci de nous avoir accordé de votre temps, professeur Francine Toubi. C'est avec une autre musique de votre choix, une autre voix de femme puissante qu'on va se dire au revoir. Angélique Kidjo, un boléro en langue mina. Angélique Kidjo, au-delà des performances artistiques, elle aussi, c'est une femme qui vous inspire. Pourquoi ?
Oh, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est forte et parce qu'elle porte haut la voix des femmes. Voilà. Pour moi, elle m'inspire. Voilà. Elle est forte. C'est le mot, c'est l'adjectif qui me vient à l'esprit.
Une voix. Angélique Kidjo, pour vous saluer, vous remercier, professeur Ntoumi, pour cet échange, d'avoir permis aux auditrices et aux auditeurs de RFI de mieux vous connaître. Mia ruwe mia rotona se lo lo ya ova mi duelo no viva mia ilo va no viva rotone ase e alo lo no vinye no viva roto agbe yawo no viva roto agbe yawo no viva Mia ilo agbele tekpo o mia ila mia ilo vivira na mesia me don 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 va no te va mi mia roto nace no te va mia ruelo mia ruwe mia roto nace no lo ya ova mi ruelo No viva mia ilo Va, no viva roto ne ase E alo lo no via No viva roto agwe yawo No viva roto agwe yawo No viva mia ilo Agwe le tekwa wo Mia ilo Mia ilo vivida Non, mais si on est. Non, on va donc. Non, on est quand. Non, non, on va donc. Non, on est quand. Non, non, on va donc. 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 Nacero, a mesia me leva mila ilo, chicho e monia me ne cabedo a vose, jo, famiglio, famiglia, a quei agnomi giovano. Et Priorité Santé touche à sa fin. Une émission préparée par Damien Roucoux, réalisée par Didier Bleu. Priorité Santé, c'est du lundi au vendredi à 9h10, temps universel. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission, quand vous le souhaitez, sur l'application Pure Radio de RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.